gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés. Et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron. Et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner. La radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant, faut manger après travailler, ouais, les 2 heures, ah, 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 je suis chômeur, ah, 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 je suis pointé, ah, 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 okay, ouais.
Bonsoir.
Alors, vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, sur le 102.2, et c'est le Canu Info du lundi 25 janvier 2021.
À l'international, on va commencer avec 3 sujets. Un premier sujet avec le mouvement paysan en Inde qui reprend du poil de la bête. Un deuxième sujet qui parlera des révoltes qui reprennent en Tunisie. Et enfin, on parlera du procès qui a eu lieu aujourd'hui de l'agent Orange.
Au national, on verra ensuite que Hanouna invite Génération Identitaire qui multiplie pourtant les actions racistes avant de revenir sur la nouvelle loi répressive contre les gens du voyage.
Et on finira au local avec un reportage sur la manif des étudiants qui a eu lieu jeudi et une interview en direct avec un livreur de la CGT Uber Eats Deliveroo en lutte. Et tout de suite, on commence par les traditionnelles brèves.
Et oui, on vous en a parlé plusieurs fois, les salariés de la raffinerie de Grandpuy en Ile-de-France sont en grève depuis le 4 janvier pour se battre contre un plan de licenciement de 700 emplois qui est organisé par le groupe Total. Mercredi dernier, après 16 jours de grève, les raffineurs ont décidé de durcir le mouvement en bloquant les travaux de démantèlement du site qui sont prévus dans le cadre du projet de reconversion de la raffinerie. Paniqués face à la détermination des grévistes et aux nombreux soutiens qu'ils ont reçus, la direction use de la bonne vieille technique du diviser pour mieux régner en menaçant de virer les sous-traitants. Désolé mais pas désolé Total, pour l'instant ça ne marche pas et le mouvement de grève a en effet été reconduit vendredi dernier puis lundi matin aujourd'hui même. Des salariés de Grandpuy qui sont décidément sur tous les fronts puisqu'ils et elles étaient présents samedi à Paris pour manifester contre les licenciements aux côtés d'autres employés comme ceux de Cargill ou de General Electric qui sont toutes et tous confrontés à des plans de licenciements sociaux. Une coordination qui est bienvenue alors que les directions syndicales restent passives, comme la CGT qui n'a même pas appelé à rejoindre la manif de samedi. Dans la catégorie absurde exploitation, l'entreprise suédoise Essity a fait fort. Spécialisée dans la fabrication de produits d'hygiène et posée dans plusieurs sites de fabrication en France, elle vient en effet d'inventer le nouveau gadget de flicage en temps d'épidémie. Un collier anti-Covid qui émet un bip de 85 décibels dès que les salariés le portant ne respectent pas la distanciation sociale. Une idée de génie, quoi. On est traité comme des chiens, tonne des employés qui ont refusé de porter ce nouveau gadget, ni collier, ni maître. Pendant ce temps, les sénateurs, qui gagnent 7 200 € par mois, ont refusé l'extension, même temporaire, du RSA aux 18-25 ans, alors qu'un jeune sur 5 de moins de 25 ans vit en dessous du seuil de pauvreté, soit quand même 1,5 million de jeunes. Des jeunes qui en ont de plus en plus marre et qui ont donc choisi d'occuper Sciences Po Lyon depuis ce matin pour demander la réouverture des établissements de l'enseignement supérieur et soutenir la mobilisation nationale pour des conditions de vie étudiantes dignes 2 semaines après le suicide d'un étudiant de l'université Lyon 3. Avis au gouvernement, quand les étudiantes et les étudiants s'ennuient, ils et elles savent s'occuper.
Excellent.
Et tout de suite, on passe à...
International.
Avec un sujet tout de suite, avec sur un retour sur le mouvement paysan en Inde.
Oui, puisque en Inde, ça fait plus de 2 mois que le monde paysan se révolte, et pas qu'un peu. On parle de plusieurs millions de paysans mobilisés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Inde, le secteur agricole emploie aujourd'hui la moitié de la population active. C'est un secteur très durement touché ces dernières années par des mauvaises récoltes, des sécheresses, de l'endettement. En 2019, il y a eu environ 28 suicides par jour de paysans. L'Inde, c'est le pays au monde où se concentrent le plus de personnes étant dans une situation d'extrême pauvreté, soit environ 170 millions de personnes. Alors que l'Inde est pourtant un pays qui dispose d'un excédent alimentaire, la pénurie touche des centaines de millions de personnes. En cause, l'agrobusiness, les monocultures destinées à l'exportation, bien souvent blindés d'OGM, comme par exemple le coton made in Monsanto qui détruit des milliers de vies chaque année. Mais jusque-là, dans un grand nombre de cas, l'État indien servait d'intermédiaire entre les producteurs et les acheteurs privés, dont font partie les corporations agro-industrielles, et permettait de garantir un prix minimum pour les producteurs. C'est entre autres ce dispositif que veut abolir le gouvernement ultralibéral sur le plan économique, mais par ailleurs profondément réactionnaire, nationaliste, conservateur, islamophobe, entre autres choses, de Narendra Modi. Donc ce monsieur a été élu Premier ministre depuis 2014. Il est considéré comme un excellent élève par le FMI. Politique d'austérité d'une part et privatisation massive d'autre part sont les maîtres mots de son gouvernement, accompagnés d'une féroce répression des mouvements sociaux, qu'ils soient ruraux ou urbains. Ce qui n'a pas empêché au mois de novembre 2020 plus de 200 millions de personnes, de travailleurs et de travailleuses indiens et indiennes, de se mettre en grève contre les mesures d'austérité et les attaques contre le peu de droits du travail existant. Mobilisation violemment réprimée, parfois à balles réelles. Ce qui n'empêche pas aujourd'hui encore aux paysans indiens et indiennes de se mobiliser contre cette nouvelle mesure capitaliste qui consiste à abolir l'intervention de l'État entre paysans, paysannes et acheteurs privés, qui permettait, je vous l'ai dit, de garantir un prix minimum pour les producteurs, mais aussi de limiter les effets dévastateurs d'une concurrence impitoyable qui va inexorablement conduire à la disparition de la petite et moyenne paysannerie au profit de monopoles et de l'agrobusiness. La conséquence de cette mesure va engendrer une baisse tendancielle des revenus des producteurs et les contraindre soit à s'endetter, soit à disparaître. Quant aux grandes exploitations agricoles privées, on le sait, elles orienteront inévitablement leur production en fonction des fluctuations du marché et de la demande internationale, allant exactement dans le sens inverse d'une politique visant à tendre vers plus de sécurité alimentaire. Voilà pourquoi, donc, depuis plus de deux mois, le monde paysan se révolte et se mobilise. En décembre déjà, les accès à la capitale de New Delhi ont été bloqués à plusieurs reprises pour faire céder le gouvernement. De véritables camps avaient été installés tout autour de la ville pour pouvoir enchaîner les blocages. Face à l'ampleur de la mobilisation, la Cour suprême indienne a jugé ces derniers jours Narendra Modi comme étant incapable, je cite, hein, de gérer cette crise sociale. C'est une disposition de la Constitution indienne et a donc décidé de suspendre, mais non d'annuler, cette réforme pour un ou deux ans. Belle tentative pour tenter de stopper la mobilisation de la part de la Cour suprême, mais c'est trop tard. Le mouvement paysan est lancé, les revendications vont maintenant au-delà de la simple abrogation pure et simple des récentes réformes. Dès demain, plusieurs milliers de manifestants et manifestantes devraient débouler à pied et surtout en tracteur dans la capitale. L'appel est très clair, prendre d'assaut la capitale le jour de la fête nationale. Ça risque d'être un joyeux bordel. On va suivre ça de très près et on vous tient au courant.
Et on part tout de suite en Tunisie, où un vent de révolte souffle sur les braises de la révolution.
Et oui, en effet, depuis une semaine, ce sont des milliers de jeunes qui sont sortis dans la rue en Tunisie malgré le couvre-feu fixé à 16h pour affronter parfois la police, mais surtout pour protester contre les conséquences de la crise économique, politique et sanitaire qui traverse le pays. Est-on alors en train d'assister à la suite des révoltes de 2011 ? Pour rappel, en 2011, à l'époque, suite à l'immolation de Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid, un jeune vendeur ambulant, des manifestations massives, scandées par le slogan « Le peuple veut la chute du régime », avaient déclenché le fameux printemps arabe et provoqué la chute du régime de Ben Ali. 10 ans plus tard donc, la colère populaire gronde à nouveau, en particulier à Kasserine, Gafsa, Sidi Bouzid, Djendouba et Gabès, c'est-à-dire dans ces gouvernorats, c'est-à-dire les départements oubliés par le pouvoir central, qui sont durement frappés par la crise économique qui est due à la pandémie. Depuis quelques semaines, les prix des produits de première nécessité ont doublé à cause de l'augmentation des tarifs d'importation et à cause surtout d'une spéculation organisée par les grands commerces. Partout, à travers le pays, le constat est le même. Le gouvernement en place, composé à partir d'une alliance entre islamistes, dont le parti Ennahda, et des figures de l'ancien régime qui, eux, sont rassemblés dans le Rassemblement constitutionnel démocratique, désormais renommé Parti Nida Tounes, ce gouvernement, donc, a unanimement trahi les aspirations révolutionnaires de l'époque. En effet, sous couvert de transition démocratique, ce gouvernement fait la chasse aux opposants, n'hésitant pas à poursuivre pénalement ce détracteur tout en laissant la place au retour des anciennes élites économiques. Les partis majoritaires, impliqués dans des transactions opaques pour financer leur campagne, et qui sont soutenus par un réseau de clientélisme puissant, soutiennent depuis 2011 une politique néolibérale dont la recette est assez simple et réside en particulier dans un mélange d'austérité, avec le gel du recrutement dans la fonction publique par exemple, et de réformes économiques qui se succèdent et qui prévoient entre autres la privatisation croissante des services, l'indépendance de la banque centrale et l'ouverture du marché. Dans un pays où les 10% les plus riches détiennent 40% du revenu national, l'État tunisien applique également un régime fiscal très inégalitaire qui taxe surtout les bas revenus. En outre, l'aspiration à une égalité territoriale portée pendant la Révolution est niée depuis 2011 par les 11 gouvernements qui se sont succédés depuis 2011. Ainsi, les disparités entre les villes côtières et les villes du centre-ouest en termes d'accès aux ressources et aux services publics se sont aggravées. De plus, la crise économique frappe fort en Tunisie et le gouvernement ne fait rien. Le chômage chez les jeunes demeure structurel avec 36% chez les 15-24 ans. Le secteur informel, lui, emploie désormais 53% de la population active et la dette colossale du pays le soumet aux pressions des créanciers internationaux. Face à cette situation, aucune mesure sociale n'est prise. Pire, dès 2013, c'est une réponse sécuritaire qui est donnée par l'État tunisien aux revendications populaires. Soutien aux syndicats de flics, renforcement des frontières, militarisation du pays semble être les seules perspectives apportées par ces gouvernements. La gestion répressive de la crise sanitaire confirme ce programme sécuritaire, comme le montre par exemple l'interdiction de manifester le jour de l'anniversaire des 10 ans de la Révolution, le 14 janvier dernier. Dans ce contexte donc, rien d'étonnant à ce que les protestations aient repris depuis maintenant quelques jours et en réalité depuis novembre 2020. Cette nouvelle mobilisation, bien que peu soutenue par la centrale syndicale l'UGTT, est encouragée par la récente lutte victorieuse d'Al-Khamour, où des sit-ins et des campements auto-organisés par des jeunes ont interrompu la production pétrolière pendant 127 jours et abouti à des négociations avantageuses en termes de création d'emplois. On va voir ce que ça donne ces luttes. Dans tous les cas, force et courage au peuple tunisien.
Et on finit à l'international par un point sur le procès de l'agent Orange. Mais qu'est-ce donc que cette chose ?
Le procès contre l'agent Orange, qui a empoisonné des millions de personnes durant la guerre du Vietnam, a commencé aujourd'hui lundi 25 janvier à Paris. Tran Toga, qui est une franco-vietnamienne de 78 ans, a en effet porté plainte contre 14 entreprises qui ont fabriqué ce sinistre agent Orange, cet herbicide qui a été répandu par les États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Alors en effet, qu'est-ce que c'est que cet agent Orange ? Déjà, ce n'est pas le nom d'un espion américain infiltré au sein de la résistance vietnamienne. C'est plutôt le nom d'un défoliant, c'est-à-dire un produit chimique dont l'effet est de faire tomber les feuilles des arbres par sa toxicité. En l'occurrence, l'agent Orange contient entre autres joyeusetés de la dioxine, soit l'une des molécules les plus toxiques et les plus persistantes au monde et qui est classée comme substance cancérigène certaine par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. 80 millions de litres ont été déversés sur le Vietnam par l'armée états-unienne entre 1964 et 1975, dans le but d'anéantir la forêt où se réfugiaient les combattants Viet Cong et détruire les récoltes. Les épandages d'agents Orange ont ainsi détruit 400 000 hectares de terres agricoles, 2 millions d'hectares de forêts et 500 000 hectares de mangroves, soit 20% de l'ensemble des forêts sud-vietnamiennes. Un véritable écocide donc. Et au total, ce sont entre 2 et 5 millions de Vietnamiens et de Vietnamiennes qui ont été directement exposé, selon une étude qui a été publiée par la revue Nature en 2003, auquel il faut ajouter donc des Cambodgiens, des Cambodgiennes, des Laotiens, des civils et aussi des militaires états-uniens, ainsi que leurs divers alliés. Alors l'agent Orange a donc ravagé la santé des personnes qui ont vécu la guerre, avec des problèmes de reproduction et de développement, ils ont endommagé le système immunitaire, ils ont également interféré avec les hormones et causé un grand nombre de cancers. Selon le rapport Stelman, qui a été publié en 2003 également, ces épandages massifs ont engendré donc l'exposition directe aux défoliants de 2 à 5 millions de Vietnamiens, et sachant que des millions d'autres ont été contaminés indirectement par la chaîne alimentaire et le lait maternel, ce qui fait qu'aujourd'hui, au moins 100 000 enfants sont atteints d'anomalies congénitales sérieuses. Parmi ces victimes de cette dioxine, donc Tran Toga, qui dans les années 1960 s'était engagée pour la libération de son peuple face aux États-Unis. Aujourd'hui, elle mène un nouveau combat, que justice soit faite et que les entreprises capitalistes chimiques payent pour leurs crimes. Et ce lundi 25 janvier, après 6 ans de patience et 19 reports d'audience, elle fera enfin face aux responsables de ses souffrances. Les responsables, en l'occurrence, ce sont ces 14 sociétés de l'industrie qui ont fabriqué le produit chimique mortel, comme Monsanto, qui a été donc racheté par Bayer récemment, ou encore Dow Chemical. et qui sont défendues par une vingtaine d'avocats. Alors pourquoi ces entreprises mettent tant d'énergie pour se défendre ? Parce que ce procès au civil n'est pas seulement un combat individuel et pourrait avoir des répercussions importantes sur l'ensemble des victimes. En cas de victoire, la jurisprudence reconnaîtrait en effet la responsabilité de ces firmes chimiques dans l'atteinte à la vie des personnes et de l'environnement, ce qui serait une grande première selon la juriste Valérie Cabenas. Aujourd'hui, en cas de crime international, on ne peut pas chercher la responsabilité des dirigeants des entités morales, mais celle des politiques. Les grandes compagnies industrielles ne sont que très peu inquiétées, explique-t-elle. Or, dans le plaidoyer que nous menons pour la reconnaissance juridique de l'écocide, nous voulons chercher la personne, aller chercher les dirigeants économiques, ce qui n'est pas encore possible. Un combat qui est en tout cas loin d'être gagné. Comme c'est un procès au civil, tout repose sur la charge de la preuve. D'abord pour la faute, en montrant que les sociétés américaines visées ont fourni un produit qu'elles savaient dangereux. Puis pour le préjudice, c'est-à-dire en énumérant les maladies que la personne a développées. Et enfin, sûrement ce qui est le plus difficile, en démontrant les liens de causalité entre ces pathologies et la dioxine qui est contenue dans l'agent orange. Trantoga ira jusqu'au bout, en tout cas. Elle affirme que le combat ne fait que commencer. J'ai besoin de soutien pour avoir la patience et le courage d'elle jusqu'au bout. Nous avons encore des batailles à mener et je m'y prépare. Courage à elle et à tous les autres.
Et pour digérer ces infos, un petit son qui est...
Ouais, en soutien aux 5 nuits d'émeute du coup en Tunisie de la semaine dernière, on va écouter un morceau du rappeur tunisien El General, rappeur qui pour son morceau Raïs Les Bleds avait été quand même emprisonné à 3 jours de prison pour avoir critiqué Ben Ali. On écoute tout de suite ce morceau Raïs Les Bleds version 2.
قاعد يحكوا في البلاد 2014 نفس الحال نفس المشاكل والسفرانس اي تونس تيخ عملنا ثورة باش انت تكون رئيس البلاد تكون كيف العباد اعرف ومقطع من البلاد بلادي تتعذب تتوجع كل مرة بطريقة بلادي بكو بلادي باش تموت لازم أزريقة تحسوا بينا رانا كرهنا الاستبداد رانا فضينا من الكذب من كلابكم نمعاود الشعب يعاني حتى السقين حفاد البو عيني هبكات يشوف صغار وبيته من غير مكلات مأسات البلاد قريب تتشمع حكومة لهية في الفلوس تجمع ما على بالهم شي زوالي بيت عينيه يدمع بالقمع كل الصورة تبعثها تلمع شنو الفرق بيكم وبين التجمع شبيكم مفقدوا السمع ولا صوت الثورة ما عادش يسمع ثبتوا علينا في بان عملنا ثورة منها شي مخينا للحرية شرينا كان الهم جينا رئيس البلاد رانا فدينا من القمع والاستبداد طب نشوف اش قاعد صاير في البلاد شعبك مات حتى الخوف علينا غلاب عصرنا بالصبات والجنات كواب بس انا نعيشوا في نفس المعاناة عملنا ثورة في بنا تونس الزاد مسوقي شبيك ما كتبتش اسمك في الكتاب الاسود تي ما هي تونس خبزة كتو عليكم متقسمت تونس ضايعة فكوها بالسيف كثرة يدين عليها بين مسخ ونظيف yeah. تونس بنية صغيرة كثروا عليها خطاب كل واحد فيكم حالل في وجهها الابواب خرجنا ترابسية جبنا ترابسية جدد وما في قصر رئاسة واحنا تحت الحيط في البرد ولادنا ماتوا في البحر خرجوا طيش الورد عطيناكم ثقة قتلتوا ثورتنا بالفرد شوف بلادي عم المشي بالتولي يا اخي هذه حكومة ثورة ولا حكومة بن علي حتى كروس البلاد ما يحبوش دهنا البلاد حبوها بلاد فساد وما يدوروا الاقتصاد هاك علاش تلقاها مصوري زي من حزب النخلة يتعاركوا على تونس شكون يدخل ليلة الضخرة رئيس البلاد رانا فدينا من القمع والاستبداد طب نشوف اش قاعد صاير في البلاد شعبك مات حتى الخوف علينا غلاب عصرنا بالصبات والجنات كواب ما زلنا نعيشوا في نفس المعاناة عملنا ثورة في بنا تونس الزاد ناس ما تتباعش ناس اليوم حياة في بنا ديكتاتورية وفات تونسي كره بلاده زيد السياسة وفاتو الحكومة كلات له حقه طيش الدور ماتو بعد الثورة باش يتبدل حالو هذاش ماشي في باله طلع الكل كيف بيطلعوا له في مورالو حبينا بلادنا تكون كيما حبيناها تكون رئيس يسون بلاده وشامي شعبه يخون خسارة ثورة الياسمين باعت برخص اسوام زادوا قتلوها حقوا عليها بالاعدام رجع للتاريخ تلقى تونس من اولها فساد الحكاية بدات اغتيال فرحة حشاد الغاطي ولاد كلاب باعوا ثروات زادوا بلعوا البلاد مع العالم بالقروفات بلادي تستغيث هل منكم مجيب اللعبة شكا شي طاف الجيب اليوم نحب الشعب يكمل الثورة للآخر قبل ما تونس تبخر والثورة تتبخر رئيس البلاد رانا فدينا من القمع والاستبداد طب نشوف اش قاعد صاير في البلاد شعبك مات حتى الخوف علينا غلاب عصونا بالصباح وجونا البلاد ما زلنا نعيشوا في نفس المعاناة عملنا ثورة في بنا تونس الزاد ناس ما تتباش ناس اليوم حياة في بنا ديكتاتورية وزاد
Vous êtes toujours sur Radio Canu, le Canu Info du lundi. Et vous venez d'écouter le rappeur tunisien El General avec son morceau Raïs Les Bleds 2. Et on passe tout de suite au...
National.
Et avec ce jingle qui marche, on va vous parler de Génération Identitaire qui multiplie les actions racistes et qui est pourtant invité de Hanouna.
Alors, vous voyez le Rassemblement National ? Plutôt oui. Vous voyez les néo-nazis et néo-fascistes de l'ex-bastion sociale ?
Oui.
Oui, bon bah, c'est à peu près au milieu, avec des passerelles évidentes, et eh bien vous avez Génération Identitaire, très implantée à Lyon, vous le savez également, mais dans plusieurs villes de France, dans beaucoup trop de villes de France, avec un budget relativement conséquent et beaucoup de communication. Ils et elles adorent faire des coups médiatiques. Alors parfois, c'est faire des maraudes réservées aux Français. C'est se balader en mode milice dans le métro avec des patrouilles dites anti-racailles. C'était, on vous en a déjà parlé il y a quelques émissions, des activités dites anti-migrants dans les Alpes en 2018, constituant à se substituer aux forces de l'ordre pour renforcer les contrôles aux frontières. Action qui leur a valu un procès d'ailleurs. Trois d'entre eux avaient été condamnés en première instance à 6 mois ferme et 75 000 euros d'amende, mais finalement relaxés en appel en décembre dernier, alors qu'il est pourtant pénalement répréhensible de se substituer aux forces de l'ordre. Mais visiblement, la justice préfère condamner des militants pour des délits de solidarité. C'est pas très étonnant. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont trouvé à faire tout dernièrement, ces joyeux lurons ? En décembre, à Rouen, ils s'en sont pris à des migrants, des militants et militantes qui distribuaient de la soupe dans la rue. Oui, de la soupe dans la rue, notamment pour des exilés. Ni une ni deux, les activistes de Génération Identitaire ont pris leur courage à deux mains et sont allés interrompre cette soupe solidaire à grands coups de slogans « Les nôtres avant les autres, contre l'immigrationnisme » et des slogans aussi jolis que ceux-là.
Mais c'était une soupe à quoi ? C'est une chorba ?
Ah, je ne sais pas, j'ai pas ce détail, je suis navré. Mais surtout, puisqu'ils ont été relaxés, autant remettre le couvert et relancer des opérations dites anti-migrants, comme ils les appellent, toujours dans le cadre de leur campagne internationale « Defend Europe ». Ce mardi 19 janvier, c'est donc dans les Pyrénées que l'action a eu lieu à la frontière franco-espagnole, avec le même mode opératoire qu'en 2018, patrouiller le long de la frontière et repousser ou dénoncer aux flics le moindre exilé qui tenterait de passer les cols enneigés, bien sûr avec des outils de communication importants, ce qui permet d'exprimer ceci par exemple, hein, je cite Jérémy Piano, cadre de Génération Identitaire, ces actions permettent de protéger les Français contre des migrants qui sont des voleurs, des violeurs et des terroristes en puissance. No comment. Enfin, s'il y en a qui ont envie de commenter, d'en discuter, de le mettre en avant, par exemple, cette bonne grosse merde de Cyril Hanouna sur C8 qui a invité Thaïs Descuffon, porte-parole de Génération Identitaire, lui offrant ainsi une tribune médiatique à une heure de grande écoute. Elle ne s'est évidemment pas gênée pour cracher toute sa haine raciste et xénophobe, entre autres choses, épaulée par un certain Jean Messia, nouvelle coqueluche des plateaux TV, notamment sur CNews avec Pascal Praud, mais aussi sur C8 avec Cyril Hanouna, bref, le groupe Canal, Bolloré, tout ça. Rappelons que Jean Messia, donc, qui était également présent, est un ancien cadre du FN, puis du RN, qui l'a récemment quitté. Bref, tout ce beau monde pour parler tranquillement des actions anti-migrants. Tout va bien, je vous dis. Tout va bien. Ah, et pour finir, je vous rappelle quand même, j'aime bien le rappeler, les locaux à Lyon de Génération Identitaire, Traboule et Agogé, qui correspondent à des salles de boxe et à un bar, sont 5 montées du change. Dans le 5e arrondissement, 5 montées du change, 5e arrondissement, si jamais vous voulez passer vos nerfs avec une bombe de peinture pendant une petite nuitée solitaire.
Voilà, et on passe tout de suite à la loi répressive contre les gens du voyage. Et maintenant, visiblement, dans cette émission, il faut tout faire, même faire ses transitions pour ses propres sujets. Gestion des flux, éviter la surcharge d'aires d'accueil, renforcer l'arsenal contre les installations illégales. Voici les termes qui ont été utilisés cette semaine par les sénateurs de droite pour qualifier les citoyens voyageurs en France. Le 19 janvier dernier, donc la semaine dernière, le Sénat a en effet adopté une nouvelle loi des Républicains dont le but est de, je cite, « consolider les outils des collectivités territoriales permettant d'assurer un meilleur accueil des gens du voyage ». De bien jolis mots, alors que le texte vise en réalité à renforcer les sanctions à l'encontre des voyageurs et des voyageuses, puisque la loi prévoit en effet de durcir les peines pour les dégradations de biens commises au cours d'une installation qui est considérée comme illicite, de créer un nouveau délit d'occupation habituelle d'un terrain sans titre, si elle est en réunion, et de permettre la confiscation des véhicules d'habitation des voyageurs et des voyageuses pour les installer sur une zone décidée par les autorités. Dans le même temps, les sénateurs ont voté pour alléger les obligations des communes en matière de construction d'aire et de terrains d'accueil, en supprimant toute sanction financière pour les collectivités récalcitrantes. Donc pour l'Observatoire des droits des citoyens itinérants, qui est en fait une organisation de voyageurs et de voyageuses, cette proposition de loi menace le mode de vie, l'identité et la culture des voyageurs, et elle mettra de force les voyageurs dans des terrains désignés ségrégés et généralement insalubres. En effet, les aires dites d'accueil n'en ont que le nom. Elles sont souvent éloignées des villes, loin de tout service, situées dans les zones industrielles polluées, à proximité de déchetteries, d'usines chimiques, de stations d'épuration, d'échangeurs, d'autoroutes, et j'en passe. La proposition de loi veut ainsi mettre en place un système de réservation des aires d'accueil, obligeant à donner des informations personnelles pour pouvoir y accéder. L'autorisation peut leur être refusée donc par la mairie. Cela équivaut à donner carte blanche aux collectivités pour refuser qui elles veulent, commande William Acker, qui est voyageur, également chercheur, et qui a entrepris un travail d'inventaire des aires d'accueil en France. Pendant les débats du Sénat, les sénateurs n'ont jamais donné la parole aux gens du voyage eux-mêmes. Le sénateur républicain Stéphane Ravier a même qualifié les installations des voyageurs et des voyageuses de véritables fléaux. Il s'agit donc d'une véritable loi raciste qui vise à donner tout pouvoir aux élus pour évacuer les gens du voyage. Cette proposition est à charge contre nous. Elle parle de nous, non pas comme des êtres humains, mais comme des flux. Son objectif, c'est de légaliser l'assignation spatiale, commente une voyageuse. Devant une telle loi raciste, on ne peut s'empêcher de penser que ce sont plutôt les sénateurs LR qu'il faudrait assigner au silence.
Et avant de passer au local, encore un morceau. Cette fois-ci, c'est le rappeur Altarba avec son morceau « La nuit se lève ».
La nuit n'attrape jamais froid, ni aux yeux ni où que ce soit. Tu t'y fais, soit t'es en proie. Il fait qu'elle crie le brouhaha, il broie. Pour une fois que j'ai la gueule de l'emploi, pour le contrat on me dit tu repasseras. Je voulais pas faire de mal moi, 11h43, je me suis retrouvé au mauvais moment droit. La nuit, t'as l'impression que personne te voit. Sur ton visage on lit ton rapport à la loi. Et vu que les anges m'ont aimé, comme le feu aime le bois, t'étonne pas que je me venge, mais qu'avant je lève le doigt. Je lui dois le sens du vent, à ne pas suivre, ça va durer un bout de tempérament. Comme je suis comme celui qui sort de tolérante, même pas chez lui, estimant que la nuit est bien plus tolérante. Au menu larcin, du sang sur un des sessions, jusqu'à l'obsession de faire tout ça pour rien. Tes peurs deviennent loquaces, mais tu les gardes pour toi et perds l'occasion de faire des dédicaces. J'écris des frasques que personne calcule, vu qu'à ses coups de cocasque, la nuit le ridicule devient cocasse. Toi, tu sens t'es pas de ma bande, je clonche. Seul, je dis wesh à des chats, je te jure qu'ils me regardent. Je confonds la faim et une envie de fumer. Sous un lampadaire qui a tout l'air d'une clope allumée. J'y mettrais bien des coups de tibia. Qu'est-ce qu'il y a dans le noir complet? Je garde mes distances à vue de nez. Développe les clichés d'une existence vulnérable. Quand les plus faibles récitent l'alphabet au plus fiable. 6h du mat, les trois quarts sont affalés. Tandis que dans mon placard, des macabres m'accablés. Pour ce qui est de la clarté, je suis mal câblé. La dernière fois que j'ai essayé d'allumer, parce qu'on y voyait rien, j'ai sonné chez un voisin. Déjà que je réponds bonjour à leur bonsoir, qu'ils ont déjà vu les stars m'embarquer dans leurs histoires.
je te jure, c'est eux les mauvaises fréquentations. Même si je t'avoue qu'au départ, un contrôle de leur part fut une marque d'attention. La nuit on se regarde chelou comme un lendemain d'élection. T'as vu l'autre qui a fait demi-tour pour avoir une si belle peau. Faut dormir le soir ou au moins voir le jour. Et je traîne le teint blême pro. Si je serre une main, je pourrais pas faire croire que juste avant j'étais au chaud. La nuit tu croises des supporters sociaux. Je leur en veux pas parce qu'ils me proposent de sortir, mais bien parce qu'ils me forcent à mentir. Et je vais te dire ce que j'aime dans la nuit, c'est qu'on me demande moins ce que je fais dans la vie. La nuit c'est personnel, petit je devais pas faire les miennes, je les fais toujours pas. Et v'là ce putain de camion de poubelle, culé, j'ai un moustique dans la tête. Il se croit chez lui, il demande même plus pour aller aux toilettes. J'ai merdu, et va falloir que je me remette à te chatcher dans la rue. Vu que j'ai plus de but, j'ai plus, ce n'est qu'une partie de l'iceberg slim. Si la brigade des stupes avait moins de taf, ça en rajouterait à la crime. Je rends des visites qui m'assassinent, ziote les noms et calcule l'âge des décès sur les tombes voisines. La nuit, faut bien s'occuper. Avec la gueule que j'ai, je tombe que sur des hôtels complets. Arrêter la drogue sera compliqué. Elle laisse des traces et les gens sobres ont moins de sobriquets. Qu'on retienne le triste ou le joyeux luron. Doute bien que nos addictions nous tueront. Le juron sur les lèvres, tu voulais des raisons, les v'là. Avec ou sans toi, la nuit se lèvera.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle de toutes les radios, et c'est le Canu Info du lundi 25 janvier.
Passons désormais à notre dernière section du Canu Info, c'est-à-dire...
Local.
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 Et oui, c'est le local, et on enchaîne tout de suite donc avec...
Avec un reportage sonore sur la manifestation étudiante qui a lieu jeudi 21, jeudi dernier. Donc des étudiants et des étudiantes, plusieurs centaines se sont retrouvés à Lyon pour dénoncer leurs conditions d'études. On écoute tout de suite le reportage.
Ce jeune homme commence sa journée d'étudiant. Elle va être une véritable course contre la montre, un plan d'action ne sera pas inutile.
C'est important d'être là parce que voilà, les conditions de vie étudiante elles sont quand même pas faciles en ce moment et on est vraiment oublié du gouvernement. Et bon, on n'est pas les seuls, on est vraiment très très loin d'être les seuls à pâtir de cette gestion de crise un peu catastrophique, pour dire le moins. Et l'idée c'est de rassembler un peu tout le monde autour d'un projet commun, ambitieux.
Comme, pour plein d'autres secteurs de la société, la crise sanitaire et sa gestion libérale par le gouvernement, elle a renforcé encore plus des problèmes qui étaient déjà là, donc de précarité, etc. Et aujourd'hui, on le voit, ça éclate chez les étudiants avec des suicides à Lyon. On est ici pour protester contre ça, quoi, contre la gestion globale, libérale de la crise qui prend absolument en question les problèmes sociaux. Et aussi plus spécifiquement pour que le gouvernement prenne enfin au sérieux les problèmes spécifiques des étudiants, donc à deux niveaux, hein, global et plus spécifique. Et voilà, que les facs puissent rouvrir, que la santé mentale des étudiants soit prise en compte, que les accompagnements financiers nécessaires soient aussi mis en place. Voilà, pour un ensemble de raisons, c'est pour ça qu'on marche aujourd'hui.
C'est vrai qu'on n'en a pas trop entendu parler, ne serait-ce que dans les infos ou même globalement. Et puis surtout, c'est la solitude en fait. Enfin, moi, j'en parlais avec Julie il y a un an, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Julie, elle a reporté ses partiels parce qu'elle ne se sentait pas bien. Et moi, j'ai failli faire la même chose aussi. Et c'est dommage parce que c'est ma première année, donc ça tombe un peu mal. Et c'est vrai que maintenant, il y a un re-questionnement tous les jours. En fait, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça va valoir? Qu'est-ce que je vais devenir dans quelques années? Pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que je dois me sacrifier? Est-ce que les études, c'est un sacrifice ou est-ce que c'est censé être un plaisir?
Oui, et je trouve que c'est très compliqué en fait d'être tout seul, surtout quand on a... Moi par exemple, j'ai lâché mon appartement et je suis retournée chez mes parents. Donc ça fait quand même un peu le retour en arrière, loin des amis. On n'a pas pu voir nos amis beaucoup et je trouve que c'est vraiment important à notre âge de se construire avec les autres, d'autant qu'on n'a pas forcément tous des bonnes relations avec nos parents. Moi ça a été par exemple, j'ai eu une petite phase un peu dépressive et tout, et c'était la première fois que j'avais autant besoin d'aide. Et donc c'est quand même un peu pénible, quoi, que ça arrive pour des conditions extérieures, surtout qu'on ne maîtrise pas et qu'on n'a pas de possibilité de se projeter nulle part. Et d'autant plus que les mobilisations, elles sont compliquées parce que comme on n'est pas ensemble, là je trouve qu'on n'est pas si nombreux que ça, et comme on n'est pas ensemble, on ne peut pas se mobiliser, et pour se mobiliser, il faut quand même avoir une énergie et qu'on perd forcément, avec moins de liens sociaux et moins de motivation, on n'a pas d'énergie pour se mobiliser alors qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose. Quoi.
Ouvrez les facs pour pas finir à la bâche. Ouvrez les facs pour pas finir à la bâche. Ouvrez les facs pour pas finir à la bâche.
Vous êtes toujours sur Radio Canut, c'est le Canut Info du lundi 25 et vous venez d'entendre un reportage donc sur la mobilisation étudiante qui a eu lieu jeudi dernier pour dénoncer les conditions de vie des étudiants en ce moment qui sont catastrophiques. Et tout de suite, donc...
On passe à une interview avec un livreur Uber Eats qui est en lutte depuis plusieurs semaines.
Merci d'être venu, du coup. Pablo, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement, toi, et le syndicat que tu représentes ce soir ?
Ouais, du coup, moi, j'ai 22 ans, je suis livreur sur Deliveroo et Uber Eats également, et syndicat à la CGT Uber Eats et Deliveroo, qui est du coup un syndicat récemment créé qui organise les travailleurs des plateformes, enfin les livreurs des plateformes.
Est-ce que tu peux revenir rapidement, ou pas d'ailleurs, sur la mobilisation que vous avez lancée hein, depuis plusieurs semaines maintenant ? Sur les différentes étapes de cette mobilisation et sur évidemment les raisons hein, de votre mobilisation et peut-être aussi sur vos modes d'action.
Ouais, alors du coup, pour revenir un peu sur les mobilisations, nous, ça fait depuis fin octobre là, qu'on est dans le dur, là, dans la grève. On va du coup entamer là, notre 10e jour de grève. On fait grève plus ou moins toutes les semaines. Du coup, voilà, nous, on a eu plusieurs journées d'action sur Lyon. Les modalités, c'est simple. Nous, en fait, on se réunit. Notre objectif, c'est qu'il y a énormément de livreurs sur Lyon. Donc, c'est d'être visible devant les restaurants, de bloquer les commandes parce que de bloquer les commandes pour leur faire perdre de l'argent en fait aux plateformes parce que c'est notre seul moyen d'action de par nos conditions de travail. Donc voilà, nous on enchaîne les journées d'action. Là, la journée de vendredi prochain du 29, il y a une date de mobilisation nationale et nous sur Lyon, elle se décline par une manifestation qui partira de midi à Pardieu Villette, non Vivier Merle pardon, et qui du coup finira, on va passer devant les restaurants comme on fait d'habitude et qui finira devant les locaux d'Uber Eats pour réclamer la réintégration de livreurs qui se sont vus bloquer leur compte pour des raisons à justifier, mais ça c'est pareil, on reviendra dessus.
Ils sont où ces locaux d'Uber Eats?
Alors les locaux d'Uber Eats, j'ai plus le numéro, ils sont avenue Georges Pompidou du côté Pardieu Villette, de l'autre côté de la Pardieu du coup, et le problème étant qu'ils dématérialisent énormément de choses pour ne pas avoir à assumer leurs responsabilités, mais du coup on se réunira aussi pour montrer qu'on est là et qu'on se laissera pas faire et que c'est aussi par la solidarité que ces livreurs-là qui ont eu leur compte bloqué, puisque ça fait aussi partie de nos revendications, l'arrêt des blocages de comptes, puisque Uber Eats est coutumier du fait. Nous on aimerait bien montrer en fait par cette action que c'est par l'action collective qu'on arrivera à relever la tête et qu'en fait tout seul on se fait marcher dessus, et ces livreurs-là en question tout seuls qui se sont fait bloquer leur compte, donc on le rappelle quand même sans indemnisation chômage, puisque les plateformes n'ont pas aujourd'hui dans la loi à assumer de responsabilité d'employeur, donc ne payent pas de cotisation. Donc le livreur qui se fait bloquer son compte n'a pas de chômage, n'a pas de préavis la plupart du temps et n'a pas d'indemnisation, donc il se retrouve du jour au lendemain sans rien. Et nous on est là pour dénoncer aussi cette politique criminelle, et en fait le fait de le dénoncer pour nous ça passe aussi du coup par ces actions là et lier les deux qui sont du coup des actions de solidarité concrètes qui justifient aussi ce qu'on fait aujourd'hui.
Tu parles de blocage de compte arbitraire, tu dis aussi qu'il y a un lien plus ou moins formel ou invisibilisé aussi entre la plateforme et qui individualise les différents livreurs. Est-ce que tu peux parler un peu plus précisément des conditions de travail auxquelles vous êtes confrontés? Et peut-être revenir aussi sur les pratiques de mise en concurrence, quoi concrète, par quoi ça passe de la plateforme.
Ouais, alors nous, les conditions de travail, simplement le cœur de nos conditions de travail, c'est le paiement à la tâche. Je dis que c'est le cœur parce qu'en fait, c'est ce qui nous précarise le plus, c'est ce qui nous fait le plus nous mettre en danger sur les routes. Du coup, voilà, nos conditions de travail, nous, c'est aussi la réalité, c'est que depuis plusieurs années maintenant, Uber Eats et Deliveroo continuent de baisser systématiquement les tarifications. À titre d'exemple, moi, quand j'ai commencé ce travail-là sur Deliveroo, il y a de ça 2 ans, quasiment jour pour jour, la rémunération minimum, elle était fixée, peu importe la distance de la course, à 4,90 €. Aujourd'hui, ce minimum-là, il a disparu officiellement. Et dans la réalité, on voit passer des commandes qui sont à hauteur d'à peine 2 € quelquefois. Et donc ça, c'est aussi une réalité, la baisse des rémunérations, les blocages de comptes qui sont de plus en plus importants aussi. Et du coup, voilà, ça, c'est nos conditions de travail aujourd'hui. la mise en danger des travailleurs par le paiement à la tâche, la précarisation des travailleurs par la baisse des rémunérations, ce qui du coup aussi recoupe avec la mise en danger puisqu'on est moins payé, donc on est poussé à travailler plus longtemps malgré la fatigue, malgré une absence d'équipement vu qu'ils ne nous fournissent pas d'équipement. Pour rappel, en fait, ils n'ont aucune responsabilité. Donc voilà, ça c'est nos conditions de travail qui sont dures, et c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on sent un réel besoin des travailleurs des plateformes, des livreurs des plateformes, de s'organiser, puisque depuis la création du syndicat et depuis la mise en action, en tout cas les appels à la grève multiples qu'on a lancés sur Lyon avec le syndicat, on ne cesse de se renforcer continuellement. Aujourd'hui, on est 24 syndiqués en l'espace de 3 mois, ce qui est assez énorme comme développement, et on est régulièrement 60-70 à être en grève de manière régulière. Donc on sent qu'il y a vraiment ce besoin-là des livreurs de s'organiser, parce qu'en fait il y a un point de non-retour qui a été atteint par les plateformes en termes de détérioration, on va y arriver, de nos conditions de travail.
Juste, est-ce que tu peux revenir un tout petit peu sur ces histoires de blocage de comptes pour expliquer un peu comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est que ces histoires de comptes et quel est l'intérêt pour eux de bloquer les comptes?
Ouais. Alors du coup, je vais même en profiter pour rebondir et pour répondre à la question à laquelle j'ai oublié de répondre sur la mise en concurrence à travers les doubles commandes. Et en fait, finalement, c'est la même logique qu'on retrouve derrière les blocages de comptes. Avec les doubles commandes, en fait, c'est un système assez vicieux qu'ils mettent en place, parce que nous, à titre individuel, il nous permet de faire plus d'avoir plus de revenus, puisqu'quand on va dans un restaurant, on prend 2 commandes au lieu d'une. Maintenant, quand on regarde d'une manière plus large, ceux qui sont les plus gagnants dans ce système-là, c'est les plateformes, puisque ça leur évite de rémunérer 2 livreurs. Et nous, si on les accepte, c'est uniquement puisque les simples commandes sont mal rémunérées. Maintenant, après, pour la mise en concurrence, je pense qu'on y reviendra aussi tout à l'heure, parce que ça fait partie aussi des revendications du syndicat sur la question des travailleurs sans papier. Maintenant, pour les blocages de comptes, en fait, c'est un système, et du coup, ça vaut aussi bien sur Uber Eats et Deliveroo. Le statut d'auto-entrepreneur aujourd'hui qui régit notre activité, il faut savoir qu'il ne nous protège en rien de ce qui, en fait, pour nous, s'apparente à des licenciements. Du coup, il est illégaux sur des motifs fallacieux. Du coup, ces blocages de comptes-là, ils prennent une forme très simple. C'est que là, par exemple, si moi, ils me bloquent mon compte, je me connecte sur mon téléphone, je ne peux simplement plus accéder à l'application. Sauf que l'application, c'est ce qui me permet de travailler. Donc, en fait, on me retire la possibilité de travailler. Donc, on me retire tout revenu, parfois sans motif, parfois 48 heures, parfois à titre définitif, et bien trop souvent sans préavis, sans indemnisation et sans motif valable, quoi.
Tu disais qu'il y a quand même pas mal de livreurs sans papier qui exercent. Est-ce que tu peux décrire un peu à quoi ils sont exposés, à quels dangers et justement comment vous, la CGT, vous voulez y répondre?
Alors la question des livreurs sans papier, elle a fait aussi beaucoup de bruit à un moment donné, comme si on venait de se rendre compte que il y avait des travailleurs sans papier qui travaillaient de manière non déclarée et sans droit, en fait, finalement, pour les plateformes. La réalité, nous, on choisit de pas faire la politique de l'autruche et faire comme si ça n'existait pas. Nous, on revendique en tout cas que les plateformes prennent leurs responsabilités et en tout cas fassent pression sur la préfecture pour la régularisation de ces travailleurs-là, puisque nous, on pense, en tout cas à la CGT, que c'est uniquement sur un socle commun de droits qu'on arrivera à la mobilisation commune, en tout cas. Et nous, on refuse cette logique-là, qui est une logique profondément patronale de mise en concurrence, sur des bases qui, nous, ne nous intéressent pas. Pour moi, un livreur sans papier ou un livreur avec des papiers, ça reste un collègue, et un collègue avec qui il est nécessaire de s'organiser pour lutter pour nos droits, aussi bien les siens que les miens, et qui sont d'ailleurs pour la plupart des droits qu'on a, des intérêts qu'on a en commun. C'est pour ça que nous, à la CGT, on essaie de plus en plus d'amener, en tout cas au syndicat, d'amener cette question-là des travailleurs sans papier, puisque nous, elle est, en tout cas, c'est primordial d'aller à l'encontre de la logique patronale de division et de mise en concurrence des travailleurs, qui passe aussi du coup par cet aspect-là. Et pour nous, c'est vraiment primordial pour la lutte, puisque en fait, la lutte, et notre lutte encore plus aujourd'hui, elle se base sur des valeurs de solidarité. Et c'est pas uniquement des valeurs, c'est également, c'est comme je disais, c'est en termes d'efficacité, pour nous, c'est vraiment important de porter cette question-là. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le syndicat, il y a des livreurs sans papier qui portent aussi ces questions-là. En termes de conditions de travail, il faut aussi savoir que ces livreurs-là, ils n'ont techniquement pas le droit d'ouvrir des comptes d'auto-entrepreneurs. Et en fait, du coup, ils travaillent sous des alias. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ils payent en plus à des gens, enfin, en fait, ils payent le nom de quelqu'un, en tout cas un compte d'auto-entrepreneur, pour pouvoir travailler. Ça arrive parfois à hauteur de 100, 150 euros par semaine. Et du coup, en fait, c'est que ces travailleurs-là, ils sont d'autant plus précarisés par ce système-là. C'est pour ça que nous, on aimerait bien en fait, qu'ils aient le droit. Et en tout cas, on se bat pour qu'ils accèdent à un socle de droits communs, bien qu'il soit faible, mais qui, en tout cas, pour nous, est la base pour ensuite lutter pour gagner des nouveaux droits.
Est-ce que tu peux revenir rapidement sur les enjeux qui sont liés du coup au statut d'auto-entrepreneur, en précisant quel sens ça a pour vous d'être reconnu comme salarié et qu'est-ce que ça signifie en termes de combat juridique?
Ouais, alors avant de répondre, je pense que c'est important de souligner que alors le syndicat, ça fait pas longtemps qu'il existe officiellement. Après nous, ça fait bientôt 2 ans là qu'on mène un travail en fait de construction. Au départ, cette question-là, elle a été difficile à amener chez les livreurs et elle l'est encore parfois aujourd'hui. Et en fait, ça témoigne pour nous, c'est une petite parenthèse, pour nous, ça témoigne aussi de ce à quoi les livreurs associent le salariat, et à raison, puisqu'en fait, il ne faut pas oublier non plus que le salariat se fait attaquer de toutes parts encore aujourd'hui par le patronat, et du coup, qui est souvent associé à un statut précaire malgré les droits auxquels ils donnent accès. Et il y a énormément de livreurs, en tout cas énormément, non, mais il y a certains livreurs qui... Étant donné qu'ils associent ce statut de salaire, enfin le salariat, à un salaire de 1200 euros net par mois, etc., sans forcément avoir les autres avantages, en fait, vous ne voyez pas en fait les bons côtés. Et pour nous, c'est vraiment important aussi de réaffirmer que si nous, dans le syndicat CGT, on est évidemment pour accéder à plus de protection sociale, on est pour la reconnaissance du lien de subordination. Pour nous, c'est vraiment important aussi de souligner que lorsqu'on y arrivera, il est important aussi de maintenir le rapport de force pour justement gagner des nouveaux droits et une bonne rémunération, quoi.
Parce que tu disais aussi que votre combat, il est en réalité, il concerne tous les secteurs, dans le sens où qu'est-ce que ça veut dire du coup pour vous, l'ubérisation de la société? Est-ce que en quoi les autres secteurs ont intérêt à vous soutenir?
Ouais, moi je pense que, alors je vais prendre mon exemple particulier puisque moi je suis en procédure de requalification au prud'homme pour une requalification au contrat de travail contre Deliveroo. Nous on aimerait bien aujourd'hui justement faire reconnaître ce lien de subordination là qui en toute bonne foi il existe, il est là, il est réel. On, avec notre avocat, avec la CGT, on réunit un maximum d'éléments qui montrent cela. Et aujourd'hui, pour nous, ce combat-là, ce combat juridique, il est aussi important à mener, puisque la réalité derrière ce statut d'auto-entrepreneur auquel on recourt les plateformes de livraison pour finalement contourner le droit du travail et contourner la protection sociale et détruire la sécurité sociale, en fait, il ouvre des brèches à d'autres secteurs et à d'autres secteurs qui risquent aussi de subir ces attaques-là du patronat. Et du coup, voilà, pour nous, ce combat-là, il est vraiment aussi important de faire reconnaître ce lien de subordination.
Est-ce que tu peux préciser un peu justement ces éléments, justement, qu'est-ce qui ressemble dans Uber ou dans Deliveroo à un contrat de travail?
Alors déjà, à l'inscription sur Uber ou Deliveroo, on signe un contrat qu'ils appellent de prestation. Qui s'apparente plus ou moins en tout cas à un contrat de travail en termes de structure et de ce qui est inscrit dedans. Ensuite, il y a énormément d'éléments. Par exemple, les factures, nous, ils nous disent régulièrement qu'on est leur client. La vérité, c'est que c'est eux qui fixent le tarif de livraison de manière unilatérale. C'est eux qui décident de nos conditions de travail, c'est eux qui décident de la baisse des rémunérations. Moi, j'ai reçu, par exemple, à titre personnel, une ou deux fois des mails qui donnaient des injonctions à livrer plus rapidement, avec derrière des menaces de blocage de compte. Donc, en fait, c'est autant d'éléments qui prouvent le lien de subordination et le lien en fait, d'employeur qui nous anime avec la plateforme, là où les plateformes.
Est-ce que, il me semble aussi qu'il y a un système de notation non interne interne aux livreurs de par les clients? Qu'est-ce que vous en dites, qu'est-ce que vous en pensez et comment surtout les plateformes les utilisent justement pour vous exploiter?
Ce système de notation là il est très vicieux aussi et on l'a vu plusieurs fois. Après ça recoupe également avec le fait que on n'a aucune protection de l'emploi et on peut se faire bloquer nos comptes à tout moment. C'est pour ça que ce système de notation là il est très vicieux puisque en fait, la plupart du temps, il sert de prétexte au blocage de compte, justement, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, nous, on est évidemment pour mettre fin à ce système de notation-là, qui n'a pas lieu d'être, puisque la quasi-totalité, si ce n'est l'entièreté des livreurs, font correctement leur travail. Et du coup, pour nous, il n'a pas lieu d'être, et encore moins lieu de servir de prétexte à des blocages de compte. Donc, on est évidemment pour sa suppression. Mais la réalité, c'est que quand on dit qu'on est pour l'arrêt des blocages de compte injustifiés, Et en fait, on est de fait contre le système de notation, puisqu'il ne peut plus être utilisé pour les blocages de comptes. Donc c'est vraiment nous, pour nous, ce qui est important, c'est vraiment l'arrêt dans l'immédiat, c'est l'arrêt de ces blocages de comptes-là, qui pourrait en fait, qui constituerait l'accès à un premier droit et une première en matière en tout cas de stabilité, pardon, de l'emploi, quoi.
Et au niveau national, est-ce qu'il existe des liens entre les différents syndicats ou collectifs de livreurs et de livreuses ? On a pas mal parlé de la victoire ou pas. Enfin, qu'est-ce que vous pensez de la victoire de Saint-Étienne, les livreurs de Saint-Étienne qui ont obtenu, je crois, une rémunération un peu plus élevée.
Alors, la CGT aujourd'hui, elle œuvre aussi à la création de syndicats CGT un peu partout en France, là où en tout cas les livreurs ont la volonté de s'organiser. Et on reçoit quand même de plus en plus de messages de livreurs justement qui ont envie de s'organiser. Et ça recoupe avec ce que je disais tout à l'heure. Il y a un point de non-retour qui a été atteint et les livreurs dans d'autres villes voient ce qu'on fait nous ici, voient ce que font les syndicats CGT dans d'autres villes et expriment de plus en plus la volonté de s'organiser. Par exemple à Limoges, à Agen, à Pamiers également, enfin il y a plusieurs villes et il existe aussi des syndicats CGT à Toulouse, Bordeaux, Nantes, Dijon ou encore Lyon, qui seront d'ailleurs aussi en grève le 29 et où du coup il y a eu aussi des grosses dates de mobilisation avec plus de 100 livreurs à Bordeaux et à Toulouse, par exemple, au mois de novembre. Donc voilà, nous, on essaie, parce que pour nous, c'est aussi important, on a le même employeur, et c'est aussi pour nous important d'œuvrer justement à la création de ces syndicats-là CGT, de s'organiser dans la CGT, en tout cas d'inviter les livreurs et d'inciter les livreurs à s'organiser dans la CGT. Maintenant, pour Saint-Étienne, je pense que ça montre une chose, c'est que quand les livreurs relèvent la tête, quand les livreurs s'organisent, quand les livreurs luttent, les plateformes, en tout cas Uber là en l'occurrence, ne peuvent pas faire indéfiniment la politique de l'autruche, parce que la vérité c'est qu'ils perdent de l'argent, leur image se détériore, etc. Donc à Saint-Étienne c'est historique dans le sens où c'est la première fois qu'une plateforme négocie plus ou moins, je sais pas si on peut vraiment appeler ça des négociations parce qu'encore une fois c'est hors du cadre de la loi et du droit du travail, mais c'est la première fois en tout cas qu'il y a quelque chose qui a été obtenu. Ceci étant dit, maintenant les avancées, quand on regarde un peu ce qui ont été obtenus, on a vu beaucoup sur les médias, dans Le Monde, etc., les journalistes crier victoire. La vérité, c'est que quand on regarde Uber, j'ai un peu l'impression, moi en tout cas, que nous, enfin c'est un peu le ressenti qu'on a, nous, dans le syndicat, mais aussi les autres syndicats de livreurs ou les autres collectifs de livreurs, comme à Saint-Étienne par exemple, que Uber nous prend un peu pour des imbéciles. C'est-à-dire que ce qu'ils ont mis en place, c'est une rémunération minimum horaire, il me semble, le midi sur un créneau de 2 heures de 10 euros et le soir de 12 ou 13 euros, quelque chose comme ça. Il me semble bien qu'ils sont déjà en train de revenir dessus parce qu'il n'y a pas d'accord écrit qui a été signé, donc ils sont déjà en train de revenir dessus. Et en plus, même ce minimum-là, il était conditionné au fait d'accepter deux commandes avec un taux d'acceptation de 85%, etc. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que déjà, si un minimum de 10 euros, il est conditionné au fait d'accepter deux commandes, ça veut dire que les commandes sont payées moins de 5 euros. Donc c'est déjà que les commandes sont ridiculement basses. Maintenant, ceci étant dit, nous, sur la question de la rémunération horaire, ce qu'on propose, et en tout cas ce qu'on avait aussi proposé au mois de mars dernier, quand on avait déjà lancé des mouvements de grève sur Lyon, c'était l'instauration d'une rémunération horaire fixe, puisqu'il faut savoir que nous, quand on attend une commande ou quand on attend devant un restaurant, on est dehors, sur notre vélo, on n'est pas en train de faire autre chose, et du coup, en fait, c'est du temps de travail qui doit être payé, en fait, assez logiquement. Et du coup, voilà, nous, on revendiquait ça, en tout cas, qu'il y ait une rémunération horaire fixe et suffisante aussi, on n'est pas là pour demander des miettes et des rémunérations dérisoires, à laquelle s'ajouteraient des rémunérations à la commande. Ça permettrait aussi, justement, de contrebalancer un peu les vices du paiement à la tâche, qui sont, du coup, la mise en danger, la mise en concurrence des travailleurs.
Et qu'en est-il d'ailleurs à Lyon ? Est-ce que les plateformes ont réagi à votre lutte ?
Alors les plateformes, elles ont contacté plusieurs fois les syndicats CGT, que ce soit de Lyon ou de Nantes, ou même Bordeaux, il me semble. Elles ont contacté plusieurs fois, la plupart du temps elles le font à titre individuel. Ce qui a été assez inédit là, avec cette grève-ci, c'est qu'ils nous ont répondu non pas à un individu, mais au syndicat. C'est-à-dire que c'est un premier pas, en tout cas, avec la lutte. Elle fait avancer les choses en matière de reconnaissance du syndicat par les plateformes. Maintenant, ceci étant dit, c'est pas des vraies négociations, c'est jamais sérieux. Ils n'arrivent jamais autour de la table avec des négociations sérieuses. C'est toujours des chiffres qui nous sont amenés du style on va développer des nouveaux partenariats avec d'autres restaurants, vous aurez plus de commandes, on va minimiser les temps d'attente. En fait, ils répondent complètement à côté. en matière de, vu que je parle aussi de représentation syndicale, c'est aussi important pour moi de souligner que Deliveroo a lancé le forum, un espèce de forum suite à la loi mobilité de 2019, un espèce de forum qui est censé être une instance de représentation, pour les citer même leur propre instance de représentation. Je ne sais pas quel employeur en France crée de lui-même, en dehors de tout cadre légal, sa propre instance de représentation, où du coup ils organisent des espèces d'élections. En fait, c'est un simulacre, ça. C'est un simulacre de discussion, puisqu'il n'y a pas de cadre de négociation qui est instauré par ce forum-là. C'est uniquement de la redescente d'informations. Nous, ici à Lyon et dans d'autres villes aussi, on s'est présenté à ces élections-là, non pas pour faire leur jeu et faire le jeu de ce simulacre-là, mais bien pour le dénoncer et pour éviter en fait qu'ils servent de simulacre pour y aller et dénoncer et aussi faire le lien avec d'autres villes. Mais pour moi, c'est aussi important de montrer ça, que la loi, elle avance aussi. Et pour nous, en tout cas aujourd'hui, le gouvernement, par exemple, il entend légiférer sur la question de nos conditions de travail, notre statut. Et pour nous, c'est important aussi d'accentuer le rapport de force dans ce contexte-là.
Peut-être qu'on pourrait, puisqu'on arrive sur la fin de l'interview, parler un petit peu de ce qui va venir là. Donc vendredi, qu'est-ce que vous comptez faire, puisqu'il y a une mobilisation vendredi prochain. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Ouais, alors du coup, nous vendredi, comme j'ai dit tout à l'heure, on part de midi Pardieu, Vivier, Merle. Donc voilà, nous on va avec les livreurs, on attend un peu de se réunir, etc. On passe devant les restaurants, ce qui nous permet aussi de sensibiliser les livreurs qui sont soit pas au courant ou soit qui ont oublié ou peu importe, mais souvent pas au courant, puisque on est très atomisé dans nos conditions de travail, donc c'est un peu compliqué de communiquer des fois, mais on y arrive de mieux en mieux, et ça nous permet du coup de bloquer les commandes devant les restaurants aussi, de rencontrer d'autres livreurs qui viennent chercher les commandes, de leur expliquer la démarche, etc. Et c'est aussi comme ça qu'on ramène des nouveaux livreurs. Ensuite, on va finir du coup la manifestation devant les locaux d'Uber, comme on l'avait déjà fait il y a de ça presque un an et demi, au mois de mai 2019, il me semble. Enfin voilà, et finir devant les locaux d'Uber pour aussi dénoncer leur politique irresponsable et criminelle de blocage de comptes, qui en fait condamne à la misère des travailleurs. Voilà.
Et peut-être pour conclure, on peut rappeler qu'hier, il y a une cantine de soutien qui a été organisée aux livreurs et aux livreuses qui sont en grève à Lyon, au squat L'Illégalité, donc à Villeurbanne, dans le quartier de Cusset. Et donc, ce qui vous a permis de récupérer beaucoup d'argent qui servira, il me semble, à créer un atelier d'auto-réparation pour les livreurs et les livreuses de Lyon.
C'est ça, pour nous, c'était vraiment important aussi cette initiative-là, justement pour contrebalancer le fait que la plateforme ne prend pas ses responsabilités, ne fournit pas d'équipement et que en fait tout soit à la charge des livreurs. Nous, pour nous, l'action syndicale, elle passe aussi par des actions de solidarité concrètes comme celle-ci. Donc là, à partir de jeudi, on va mettre ça en place et d'ici quelques semaines, on va ouvrir du coup un atelier de réparation destiné aux livreurs, aux syndiqués et à tous les gens qui sont intéressés. Donc j'en profite également pour encore une fois remercier le collectif Solidarité QC. Donc voilà.
Eh ben merci beaucoup, Pablo, d'être venu, d'avoir répondu aux questions. Et on vous souhaite bon courage pour la suite de votre lutte.
Et bien sûr, on suivra de près tout ce qui arrivera dans les semaines à venir sur votre lutte et sur vos conditions de travail. Et on en parlera. Et on passe tout de suite au traditionnel
agenda. Et on commence demain à 10h.
Alors à 10h demain au théâtre Comédie Odéon, il y a une sorte d'assemblée générale dont l'objectif principal est de parler action, communiquer, mobilisation dans le milieu de la culture. C'est à 10h au théâtre Comédie Odéon sur la Presqu'île.
Et du théâtre, on filera tout de suite à la place Guichard, puisqu'à 14h, la Fédération Sud Éducation organise une grève et une manifestation pour une amélioration des salaires, des conditions de travail et d'enseignement dans l'éducation nationale.
Je crois même que c'est national comme mobilisation.
C'est national, oui.
Peut-être même d'autres syndicats qui y appellent. Ensuite ?
Ensuite, on se reposera jusqu'à ce week-end, où...
Samedi, une manifestation a été annoncée pour lutter contre la construction d'un nouveau centre de rétention administrative. Vous savez, les CRAS et ces prisons pour sans-papiers, où l'État a eu la superbe idée d'en construire un deuxième à Lyon, parce qu'un ne suffisait pas pour doubler les places d'enfermement. Donc une manifestation dont l'horaire exact et le trajet est encore à définir, mais qui aura lieu dans tous les cas samedi.
Et on vous invite évidemment à regarder Rébellion presque tous les jours pour avoir ces informations en direct live.
Toutes les heures.
Toutes les heures. Et samedi d'ailleurs, normalement, il y a également une énième mobilisation contre la loi sécurité globale.
Qui devrait partir à 14h de la place Lyautey. Voilà, donc ça sera la suite à voir si
Si.
Merci. Bon, on vous souhaite une bonne semaine de lutte et un bon couvre-feu aussi, parce que bon, on est quand même sous couvre-feu, et c'est un peu dur la preuve. Hein.
Et on vous dit à lundi prochain.
À lundi prochain.
Je vois des milliers de petites étoiles. Car mon infirmière psychiatrique me fout la trique. Mais comment, dans ces conditions, puis-je me concentrer sur mon introspection? Car mon infirmière psychiatrique me fout la trique. Mais peut-être cela fait-il partie de ma nouvelle thérapie. Monsieur le psychiatre, je pense que je ne suis pas encore complètement guéri et qu'il faudrait peut-être prolonger mon séjour au sein de vos services, de façon à ce que